Direct en jeu, la Radio Insolite en cette journée un peu exceptionnelle de ce lundi 8 mars 2021. Ouf, si certains peuvent discuter sur l'utilité d'une journée pareille, moi je dis qu'au moins une journée dans l'année si on fait un point sur les droits des femmes. Et je suis avec une vraie femme avec du caractère. Bonjour. Anne-Céline, je l'ai fait exprès. Anne-Cécile.
Bonjour.
Ah oui, faut pas perdre les bonnes habitudes, hein, c'est important. Bonjour madame, Anne-Céline, tu es la grande coach de la jardinière des potentiels.
Alors, oui.
Pour commencer, parce que bon, les gens te connaissent un peu, c'est pas notre premier rendez-vous ensemble, qu'est-ce que les jardinières des potentiels, s'il te plaît?
Alors, les jardinières, je ne sais pas. Moi, je suis donc une coach. Et j'ai effectivement choisi pour le nom de ma société le Jardin des Potentiels.
Oui, pardon, le Jardin des Potentiels, exactement.
Parce que j'aime. Parce que pour moi, c'est une très belle métaphore de ce qu'est le coaching et de ce que. Du rôle d'un coach. À savoir que. Un jardinier, c'est pas lui qui. Le jardinier, il est là pour aider la graine à devenir une belle plante et à donner plein de jolis fruits. Mais c'est la graine qui a tous les potentiels en elle. Et moi, je vois le rôle d'un coach un peu de cette façon-là. C'est-à-dire, moi, les personnes que j'accompagne, je sais qu'elles ont le potentiel en elles et je les aide juste à faire éclore ce potentiel. Voilà pour la métaphore du jardin, et puis voilà, et puis ça parle aussi d'une certaine sensibilité que j'ai vis-à-vis de la nature, du respect de l'environnement et des choses comme ça.
Alors, c'est marrant parce que toi tu parles de graines, moi j'aurais parlé de pépins plutôt. Oh
oui,
là là, le passage. Oh là là, trop fort.
Ouais, là j'avoue, bravo.
C'est un peu pour ça que je t'ai contacté, parce que tu parlais, ou plutôt j'ai cru que c'était une de tes grandes phrases que j'ai trouvé extraordinaire. C'est-à-dire, dans un premier temps, on agit et après, on réfléchit. C'est exactement le sentiment que j'ai depuis quelques temps. J'ai l'impression qu'on fait des choses et puis après on se dit, tiens, tout compte fait, est-ce que j'ai bien fait ou non? Et on se rend compte qu'il aurait plutôt fallu réfléchir avant d'agir. Mais pourquoi est-ce que je parle de pépins pour commencer?
Oui. Eh bien, parce qu'effectivement, il y a quelques jours, en lisant un des livres de Charles Pépin qui porte sur la confiance en soi, je suis tombée sur cette phrase qui m'a interpellée. Donc, cette phrase, c'est choisir, c'est savoir avant d'agir, décider, c'est agir avant de savoir.
Attends, tu me la refais une deuxième fois là.
Je la refais alors. Choisir, c'est savoir avant d'agir. Et décider, c'est agir avant de savoir. Et ça m'a interpellée parce que je trouve qu'on est, c'est pas récent, mais on est dans une société de l'hyper-contrôle.
Ouais.
Du principe de précaution.
Oui.
Et quelque part... On ne fait rien parce qu'on se dit, oulala, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas ce qui va se passer, etc. Donc, on essaie de se blinder de certitude. Et seulement une fois qu'on est certain, enfin qu'on a une certitude ou qu'on croit l'avoir, on se dit, bah, c'est bon, je peux y aller. Donc c'est vraiment ça pour moi que ça veut dire, c'est savoir avant d'agir. Et du coup, je trouve que, voilà, vu le contexte, notamment depuis un an où quelque part, on ne sait plus rien, quoi. Et quand je dis depuis un an, ça fait, je pense, depuis plus longtemps qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Et du coup, si on attend d'être sûr de son coup avant de faire quelque chose, quelque part, on ne fait plus rien. Enfin voilà, moi, c'est un peu comme ça que j'ai interprété, que cette phrase a résonné en moi et de me dire, mais... Ouais, si je veux continuer à agir, si je veux continuer à exercer mon pouvoir d'agir, effectivement, il y a des moments, il faut que je fasse des choses sans savoir ce que ça va donner. Donc, tu vois, ça confronte à tout ce qui va être l'imprévu, l'incertitude. Et c'est des sujets que je trouve, c'est des sujets qui me parlent, moi.
Il y a juste une question pour bien être clair. Tu dis depuis un an, mais qu'est-ce qui se passe depuis un an?
Depuis, allez, ça fait même un petit peu plus d'un an maintenant qu'on a commencé à rigoler un petit peu
Moi,
quand on nous parlait
je viens
d'une
d'attaquer.
grippette qui venait de Chine,
Voilà, je
tu
viens
sais.
d'attaquer le 14e mois de confinement pour un veau, hein. 14e mois sans activité, parce que nous, c'est le 29 janvier qu'on s'est mis en alerte. Voilà.
Oui.
Mais bon, comment. Voilà, tiens, la question, elle est un peu basique, mais il y a plein de gens qui répondent d'une manière différente. Qu'est-ce qui se passe, en fait, depuis 13 mois? Parce que c'est pas uniquement en France, c'est au niveau mondial.
Non, effectivement, c'est au niveau mondial.
Je vais tourner, pour t'aider, je vais tourner la question. Comment est-ce qu'on peut. Enfin, est-ce que c'est un principe de précaution? Est-ce que c'est la mondialisation qui a fait qu'on a changé complètement de fonctionnement et qui fait qu'aujourd'hui, ben, on se dit il vaut mieux prévenir plutôt que guérir? Enfin, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut analyser ça. Il y a plein de possibilités de dire.
Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est effectivement, il y a d'un côté bon, cette mondialisation qui fait que oui, un petit virus de rien du tout, si je puis dire, enfin un truc microscopique qui est a priori apparu en Chine, a quand même pu se répandre sur toute la Terre en quelques mois. Donc là, oui, ça parle bien effectivement de mondialisation, qu'il n'y a plus vraiment de frontières, de choses comme ça. Et ça parle aussi, puisque de ce que j'ai pu lire, hein, moi, je ne suis pas une experte du sujet, mais bon, j'ai essayé de lire, de me renseigner, de lire des gens qui, a priori, sont sérieux et savent un peu ce qu'ils racontent, mais que l'apparition de ce virus, il est très certainement lié à une surexploitation
Oui.
des ressources naturelles, et ce n'est pas le premier, et a priori, c'est certainement pas le dernier.
Tout à fait.
Mais pour en venir au sujet un peu de départ, moi ce que ça me dit, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, continuer à réfléchir et à penser en termes de je prévois tout, je veux être certain, je veux avoir des certitudes avant d'agir, bah, quelque part ça devient plus possible. Si tu attends d'être certain que ceci, que cela, que truc, que patin, que couffin, tu peux rester bloqué pendant des mois. Et pour en revenir je dirais à mon expérience, qui finalement est une des choses que je connais la mieux,
On
même
peut
si des fois je me surprends moi-même.
l'espérer, oui.
Mais je veux dire, tu vois, moi j'ai quitté un emploi salarié, j'étais dans un grand groupe de l'industrie pharma, j'étais bien payé, j'avais mon 13e mois, j'avais ma mutuelle, j'avais mon intéressement, bla 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 bla. Mais en même temps, je ne m'y retrouvais pas. Il y avait plein de choses, voilà. Et effectivement, au moment où j'ai décidé, parce que là, pour le coup, c'est une décision, puisque je ne savais pas à quoi je ne savais pas à quoi je m'engageais quelque part. Mais quand j'ai décidé de créer mon entreprise, bah, j'ai accepté en quelque sorte de me dire, bah, oui, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas dans combien de temps je vais pouvoir retrouver un niveau de salaire équivalent à celui que j'avais, je ne sais pas comment je vais trouver des clients, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et en même temps, voilà, il y avait en moi un élan, il y avait une force qui a été plus forte que ça, plus forte que les doutes, que l'incertitude. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même peut-être dans quelque chose qui est frileux. Et puis tu peux ajouter là-dessus, je veux dire, moi aujourd'hui, j'aimerais franchement être à la place des hommes politiques, où qu'ils soient dans le monde, hein. Parce que, bah, effectivement, quand tu décides sans tout savoir à l'avance, bah, des fois, ça ne se passe pas comme tu pensais que ça se passerait. Et derrière, c'est facile de casser. Facile de dire, ah oh bah ouais, mais vous avez vu, ils ont pris une décision débile, machin. Parce qu'avec le recul, tu as appris des choses. Donc, tu en sais plus qu'au moment où tu as pris la décision. Et quelque part, je trouve ça facile. Tu vois, de dire a posteriori, oh bah oui, mais bon, vous avez vu, ils ont pris une décision débile, ils n'ont pas pris ça en compte. Bah oui, mais comment on pouvait pas le prendre en compte, puisqu'à l'époque, ce n'était pas connu.
Tu as de ton côté Monsieur Pépin. Moi, de mon côté, j'ai un petit jeune qui s'appelle William Shakespeare. qui disait « pense avant de parler et pèse avant d'agir ». Là, quand on dit « agir avant de réfléchir », quand on dit « on prend une décision, on l'assume derrière », il y a aussi des propos, la manière de le faire, la manière de le dire. Parce que c'est ça le plus important aussi.
Et je vois, c'est quelque chose que moi j'essaie aussi de transmettre quand j'accompagne des managers, parce que quand on est dans un rôle de manager, tu peux avoir cette vision du chef qui sait tout.
Les joies du direct, il y a des fois on ne sait pas ce qui se passe, d'un coup on part dans la station spatiale orbitale, on rejoint la sonde sur Mars et puis... Allô, il y a quelqu'un ? Il n'y a plus personne sur la planète Terre alors qu'on peut échanger avec Mars. C'est ça qui est extraordinaire. On retrouve tout simplement notre grande gourou du jour, notre grande philosophe. Je parlais de William Shakespeare qui disait, lui, qu'il fallait quand même penser avant de parler. Il y a des fois, on a l'impression qu'en ce moment, depuis quelques temps, on parle et puis après on se dit, tiens, zut, qu'est-ce que j'ai dit ? Quelles sont les conséquences ? Alors, je pourrais parler de diffuser des informations, je pourrais parler de mettre des choses sur des réseaux sociaux. On a l'impression qu'aujourd'hui, tout va vite, et puis on met un truc, on a cédé à l'affectif, et puis après on se dit, ah, tout compte fait, aïe, qu'est-ce que j'ai fait ? Faut-il agir avant de réfléchir ? Faut-il réfléchir et prendre le temps, surtout ?
Alors, pour ce qui est de s'exprimer ou d'exprimer quelque chose, bon, là, en plus, tu parles à quelqu'un qui est plutôt introverti de nature.
Oui.
Donc, moi, j'ai tendance à réfléchir avant de parler.
Ah bah, je crois que c'est un minimum, non, logiquement.
Oui.
C'est je sais pas.
Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, entre guillemets, s'écouter. Et j'ai envie de dire comment... Si tu as une pensée qui te traverse l'esprit, tu peux l'écouter, mais tu n'es pas obligé de l'exprimer à l'extérieur, en tout cas.
Quand tu dis tu veux l'écouter, c'est-à-dire tu peux l'écouter pour toi dans un premier temps.
Voilà. On l'écoute dans sa tête, on se dit tiens, j'ai pensé ça. Mmh. Et puis effectivement, avant de l'exprimer, il me semble qu'il y a peut-être un minimum de réflexion à avoir, de se dire quel peut être l'impact sur mon entourage, sur la personne à qui je vais le dire. Si c'est quelque chose de plutôt blessant ou vexant, tu peux aussi le dire d'une façon qui soit la moins brutale, j'ai envie de dire, possible. Mmh. Tu peux choisir ou décider de ne pas le dire aussi. Parce que c'est pas le moment, parce que voilà. Mais du coup, ça me fait penser à dire un sujet qui m'est cher aussi, qui est la gestion des émotions. Oui. Je le dis comme ça parce que c'est un peu le terme consacré, pour moi, on ne gère pas une émotion. Une émotion, comme une pensée, elle est là, elle arrive, tu le maîtrises pas. Par contre, c'est comment tu gères la réaction suscitée par cette émotion. Et ce qui, tu vois, je fais un peu ce parallèle parce que quelque part, c'est important d'écouter ses émotions. Oui. Mais par contre, est-ce qu'il faut pour autant se laisser, entre guillemets, guider tout le temps ou mener par le bout du nez par ses émotions ? Et je pense notamment, tu vois, à la colère qui peut te faire dire des choses que tu vas effectivement regretter 10 minutes après. Mm-hmm. Mais en même temps, si la colère, elle est là, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, tu vois, c'est un peu ce parallèle que je veux faire. C'est... Oui, des fois, tu as des choses qui... des pensées, des impulsions qui viennent. Il ne s'agit pas de dire « Non, non, mais j'écoute rien de tout ça, parce que je ne fais que réfléchir. » Mais donc, tu vois, il faut en prendre compte, mais peut-être ne pas l'exprimer tout de suite. C'est le fameux, tu sais, il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, ta grand-mère a très certainement dû te dire également.
Ah, totalement, c'est aussi, réfléchir avant d'agir. Nous sommes le jour de... Oui, vas-y, pardon.
Et pour en revenir à l'époque actuelle, où effectivement on est dans une espèce d'overdose d'informations, enfin à la limite je peux Je ne sais même plus si on peut appeler ça de
Non.
l'information.
Non,
On est dans une
malheureusement non.
overdose de communication, de je m'exprime, de voilà, il faut que je sois visible sur les réseaux sociaux parce que c'est devenu un peu l'endroit où il faut être et si tu n'y es pas, bah, tu peux avoir l'impression de ne pas exister. Et tu as vraiment effectivement ce sentiment, cette accélération de plein de choses. Qui fait que oui, on a peut-être perdu un peu de vue le fait que bah oui, tourner cette fois sa langue dans sa bouche, ben voilà, c'est de la bonne sagesse populaire, mais qui pour moi a tout son sens et encore plus aujourd'hui, j'ai envie de dire, effectivement.
Ouais, alors justement aujourd'hui, pour en finir, donc aujourd'hui, nous ne sommes pas n'importe quelle journée, on est le lundi 8 mars. C'est un point qu'on fait au moins une fois dans l'année. Ça, c'est important d'avoir une journée comme ça où on réfléchit sur les droits de la femme, ou le droit des femmes, pardon, ou les droits des femmes.
J'ai envie de te dire, par défaut, oui.
Bah, mais c'est exactement ça, c'est comme ça que je l'ai présenté. Pour moi, je me dis au
C'est...
moins une fois dans l'année, on se bloque une
Ouais.
journée, et logiquement, ça ne devrait pas être une fois dans l'année, ça devrait être tous les jours, c'est tout.
Oui. Ben oui. C'est... Enfin, je veux dire, c'est pas le seul sujet qui devrait être, j'ai envie de dire, sur le devant de la scène beaucoup plus souvent, voire tous les jours. Après, effectivement, c'est mieux que rien. Je pense que c'est peut-être l'occasion, à la limite, si on veut le voir d'une façon positive. C'est peut-être l'occasion de mettre en avant des projets qui eux se font sur du long cours, dont on n'entend pas forcément parler tous les jours, mais c'est voilà, peut-être l'occasion de mettre en lumière certaines choses, de mettre en lumière certaines avancées. Donc non, c'est bien, voilà, c'est bien d'avoir le 8 mars, la journée de la femme. Après, moi, effectivement, je ne pas m'empêcher de me dire ok, le 8 mars c'est la journée de la femme, mais pour moi c'est tous les jours la journée de la femme et c'est tous
Exactement.
les jours la journée de l'homme aussi.
Exactement, c'est tout à fait, non, mais complètement, le propos est très juste, je trouve.
Et du coup là ça me fait juste penser, tiens, pourquoi il n'y a pas enfin peut-être que ça existe, mais je ne suis pas au courant, est-ce qu'il y a une journée de l'homme? Hein, moi je dis, si on voulait aller jusqu'au bout de l'égalité, on devrait avoir une journée de l'homme.
Alors là, c'est une très bonne question que je pose. C'est un peu comme si on disait les évidences sont toujours évidentes. C'est tout. Et moi, ça me fascine parfois de certaines choses. Là-dessus, je dois pas être très normal et je le revendique. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai souhaité appeler direct en jeu la radio Insolite, que le slogan c'est toute vérité bonne à dire. Je sais pas, moi je suis très très fier de dire qu'il y a 30 ans, j'ai décidé d'arrêter et d'être l'homme à la maison pour pouvoir grandir mon fils. Ça m'a pas choqué du tout. Je me rappelle Frédéric Lopez à l'époque qui faisait des émissions sur Télé Lyon Métropole qui appelait ça les nouveaux pères. On avait fait plusieurs émissions. Bah ouais, enfin bon, j'ai l'impression que enfin, je vis avec mon temps, je ne suis pas encore à parler du code Napoléon ou du droit de vote de la femme qui n'est pas très ancien. Je veux dire, ça me fait quand même sacrément sourire tout ça. Enfin.
Oui.
Ok.
Et puis bon, c'est pour le sujet du entre guillemets du féminisme. Moi, je me dis, j'aime pas spécialement opposer tu vois, homme-femme. À la limite, tu vois, je préfère qu'on parle de masculin et de féminin. Parce qu'on a tous, qu'on soit homme ou femme, on a tous une part féminine, on a tous une part masculine.
Totalement.
Et je trouve qu'aujourd'hui, enfin, c'est pas moi qui le dis non plus, hein, c'est des choses que je lis, que je regarde. Je pense que le monde de l'entreprise, notamment, et peut-être le monde occidental, dans son ensemble, a été construit et repose sur des bases qui sont très masculines. Et qu'aujourd'hui, le souci, c'est justement comment faire entrer un petit peu plus de féminin. Et a priori, oui, les femmes sont peut-être plus à même d'avoir du plus, enfin, d'exprimer plus facilement la part féminine qui est en elle. Mais je sais effectivement qu'il y a des hommes qui ont cette part féminine et qui ont cette peut-être cette sensibilité, une ouverture, qui sont plus dans le prendre soin, dans l'attention à l'autre. Évidemment qu'il y a des hommes qui sont comme ça aussi. Donc si tu veux, pour moi, le féminisme tel qu'il a pu être présenté à une époque comme une espèce d'opposition, voilà, les mecs tous des machos, tous des cons, non, ça me plaît pas non plus. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, tu as certaines femmes qui réussissent bien dans le monde de l'entreprise, mais qui sont peut-être aussi dans des schémas très masculins. Et ce qui est normal, puisque aujourd'hui encore, voilà, le monde de l'entreprise, je pense que le monde politique est aussi très masculin.
Tout à fait.
Voilà.
Alors, je voudrais en finir par faire deux petits clins d'œil. L'un concerne, on va dire, le monde, et l'autre concerne direct en jeu directement. Je voudrais faire un petit clin d'œil au pape François, qui est actuellement en Irak, et puis à Julie Chloé, qui est notre chroniqueuse sur sa chronique côté lifestyle, et que j'ai eu le plaisir d'emmener à l'aéroport de Saint-Aix samedi, et avec laquelle ben, on a plusieurs déjà sujets sur la Turquie. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, mais dis donc, être présente lundi 8 mars en Turquie, c'est insolite, c'est original, c'est même risqué. J'ai dit, ben non, non, on a le courage d'assumer nos propos, on a le courage d'assumer nos actes, et puis on défend des valeurs, et je crois que c'est très important. Je voudrais juste finir avec ce mot-là, les valeurs pour toi, c'est quoi?
Harmonie. Qui est quelque chose de très important, respect, et humilité. Allez, je vais m'arrêter à trois.
Voilà, je ne pouvais pas espérer mieux. Je trouve qu'à la limite, il n'y a même rien d'autre à dire, parce que d'abord, les trois mots, je les écris avec la première lettre en majuscule, et puis voilà. Je te remercie.